Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 5, proposé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Ravi de vous accueillir au sein de ce webinaire, donc il est le premier de notre saison, donc le premier de la commission numérique et innovation. Donc, je suis ravie de pouvoir inaugurer cette longue liste pour 2024. Avec moi pour traiter ce sujet de CES de Las Vegas, donc déjà notre coprésident de commission, Jean-Luc Brossard, et Romain Dussard du Hub Institute qui nous a accompagnés dans cette délégation. Voilà, donc juste pour une petite mise en contexte, nous avons pour la première fois amené une délégation d'adhérents. Traditionnellement, c'était le président du MEDEF qui faisait une visite au CES, mais nous avons souhaité ouvrir cette délégation et cette visite à nos adhérents. Nous avions à la fois des adhérents des territoires et des secteurs professionnels, donc des branches professionnelles, ce qui a aussi permis un networking au sein de notre équipe. Et puis, l'objectif, c'était de découvrir toutes ces technologies de rupture qui allaient transformer à la fois les entreprises, leur business model, et puis aussi les relations avec l'extérieur de l'entreprise, les clients, les fournisseurs. Donc, merci infiniment, en tout cas, Romain, d'être là aujourd'hui, puisque nous allons lui céder la parole pour nous faire cette présentation et traverser les grandes tendances du CES 2024. Et nous avons donc Jean-Luc qui va jouer le rôle de grand témoin, qui interviendra autant que de besoin pour nous apporter aussi ton éclairage et puis ton témoignage sur cette expérience.
Donc on va échanger effectivement sur le CES, qui est un salon qui maintenant avait quasiment 80 ans et qui a beaucoup évolué, et surtout ces dernières années avec le Covid et autres. Pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que c'est le CES, c'est plus de 4000 exposants, 130 000 participants venant de 150 pays qui se donnent rendez-vous chaque année en début d'année pour effectivement découvrir les tendances et les innovations technologiques qui peuvent impacter leur secteur. Donc, si on regarde un peu l'historique, c'est vrai que le CES a commencé en 1967 avec un salon qui était très orienté électronique grand public avec des télés, des frigos, mais aussi, on va dire, différents appareils, même des grille-pains à l'époque, et qui a vraiment évolué au fil des années pour devenir vraiment l'événement incontournable des nouvelles technologies. Comment ça représente ensuite? Ça veut dire que c'est un salon avec plusieurs halls assez gigantesques, avec à chaque fois différentes thématiques sur lesquelles je reviendrai juste derrière, mais effectivement on est très loin du grille-pain et maintenant plutôt de l'électronique plutôt orientée entreprise, mais après avec toujours une dimension avec un hall dédié pour l'électronique grand public. Il y a toujours les télés, mais c'est la télé dans un écosystème un peu plus large, je vous en reparlerai un peu plus tard. Effectivement, chaque année a un peu son lot de tendances et de grosses thématiques on va dire, qui marque l'édition. Donc, c'est vrai qu'en 2018, on parlait déjà beaucoup de big data, d'objets connectés. En 2019, beaucoup autour de la réalité virtuelle, les premiers véhicules électriques et beaucoup de choses autour de la voix. 2020, c'était plutôt l'année autour de la 5G, de la blockchain, de la smart city. On voit que il y a un certain temps de mise en place et ensuite, dès 2021, donc on en parle beaucoup aujourd'hui, mais tout ce qui était intelligence artificielle, on commençait à en parler dès 2021. Et puis 2022, les sujets de métaverse qui étaient partout. Alors bon, ils avaient un peu réutilisé les sujets autour du jumeau numérique pour l'appeler métaverse en 2022. Mais c'est vrai que on va dire pas évoluer aussi vite que les autres sujets présents. Et puis 2023, où effectivement, c'était l'arrivée beaucoup des sujets de développement durable et de la mobilité. Pour 2024, cette année, c'était simple, il y avait trois grands sujets qu'on retrouvait quasiment sur un stand sur trois. Le premier, l'IA générative, donc l'intelligence artificielle générative, le développement durable et pas mal de choses autour de la mobilité. Donc si on analyse un peu tout ça, nous on a dégagé six tendances clés qui fascinent vraiment cette édition avec toutes les technologies relatives à la mobilité et à la ville et à la maison intelligente, aussi toutes les innovations autour du retail, de l'expérience client. Ensuite, on a regroupé pas mal de sujets, mais autour de l'humain connecté et de la santé, sous cette thématique, et ensuite effectivement l'industrie connectée, et puis un sujet qui prend de plus en plus de place au CES, Tech for Good, qui inclut à la fois les sujets de développement durable et les sujets d'inclusion. Et puis le sujet phare de cette année, l'IA générative, et puis voilà, les nouvelles technologies, donc dans la cybersécurité et autres qu'on a pu identifier. Jean-Luc, je pense que tu avais deux, trois petits commentaires par rapport
Alors,
à ces grandes thématiques.
non, les grandes thématiques, tu les as bien décrites, merci Romain, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des thématiques qui deviennent des thématiques transversales. Donc, que ce soit le développement durable, certes, qui est apparu des années 2020, 2021, 2022, ou l'intelligence artificielle qu'on voyait dès l'année dernière, on s'aperçoit que maintenant, il y a de l'intelligence artificielle à tous les étages. On le retrouve partout, on le retrouve au niveau de propositions financières, de propositions de véhicules autonomes, on le retrouve dans des lunettes, on le retrouve pour plein de secteurs, dans la santé et ainsi de suite. Donc en fait, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est important, moi, il y a deux thématiques transversales vraiment qui sont ressorties. Le développement durable, il n'y a pas un sujet qui est présenté sans présenter en même temps son impact environnemental et le gain qu'il va apporter sur l'impact environnemental. Donc c'est le service, mais au service de l'impact environnemental. Et puis l'intelligence artificielle, c'est le service, l'exploitation des données, le calcul autour de ces données pour l'aide à la décision dans tous les domaines. Et c'est quelque chose qui est assez générique. Alors tu as parlé de la mobilité. C'est vrai que la mobilité au niveau sujet de développement durable, on s'aperçoit que la mobilité, elle était avant tout électrique partout. C'est-à-dire qu'on a vu des vélos électriques pour commencer à partir des deux roues, on a vu des voitures électriques, Honda a profité pour présenter sa dernière version, on a vu des bateaux électriques, puis on a vu des eVTOL, donc ces espèces de drones, hélicoptères à décollement vertical qui permettent d'aller des aéroports au centre-ville, et donc on voit donc beaucoup d'électromobilité, beaucoup de sujets liés à l'électromobilité et à son écosystème, du smart charging pour la mobilité routière, et puis une initiative très forte des Coréens pour moi, avec en particulier Hyundai, ESK, Kia qu'on a vu sur l'écosystème en fait de l'énergie souveraine avec beaucoup d'hydrogène de leur part qui vont de la production d'énergie renouvelable jusqu'à les usages qu'ils pourraient en faire.
Tout à fait. Effectivement, je rejoins complètement sur cette présence aussi coréenne, mais on va parler aussi de la présence française. Alors cette année, la délégation était un peu plus petite que les années précédentes, mais on est quand même la troisième délégation internationale sur le salon, après les Américains, les Coréens, les Français. Donc effectivement, il y avait 150 startups au niveau du pavillon Business France. Alors, on va dire les années précédentes, on était autour de 200, 300, mais peut-être pour le mieux, la sélection, j'ai trouvé très, très, très bonne. Et puis, effectivement, trois gros thèmes présentés, la partie transition énergétique, la partie intelligence artificielle, et puis les sujets de santé aussi qui étaient présents sur le stand français. Ensuite, effectivement, sur les sujets de mobilité, très belle introduction par Jean-Luc. Effectivement, ce qu'on a beaucoup vu, c'était effectivement la partie mobilité électrique. Effectivement, c'est quand on voit un peu les sujets par rapport aux véhicules autonomes, il y avait beaucoup plus de véhicules autonomes qui étaient présentés les années précédentes. Aussi, peut-être dû aux dernières difficultés des acteurs comme Cruise et autres qui ont du mal à s'implanter avec soit des sujets de réglementation, soit des sujets de problématiques en fait de rentabilité pour ces acteurs-là. Même s'il n'y a pas de chauffeur, il y a quand même beaucoup de puissances de calcul qui sont nécessaires et qui ont du coup du mal à être rentables. Et en fait, on voit une structuration, vraiment une consolidation technologique sur cette partie mobilité électrique. Alors cette partie mobilité électrique était très importante, mais il y avait aussi les sujets de connectivité et puis les sujets de mobilité partagée et puis de micro-mobilité comme Jean-Luc en parle. cette partie de mobilité électrique, c'était à la fois pour les voitures que l'on connaît bien, mais aussi pour tous les bateaux. Il y avait des bateaux électriques présentés, mais aussi pour, on va dire, des drones de transport. Donc là, il y a une photo de XPeng, on en reviendra juste après. Mais c'était vraiment dans les sujets, comment est-ce qu'on électrise toutes ces voitures et tous ces acteurs. Il y avait aussi des choses très intéressantes au niveau du rechargement des batteries, parce que c'est un gros sujet dès qu'on parle de mobilité électrique, avec à la fois des robots qui vont être capables, on va dire, de faciliter cette partie de rechargement, avec un bras robotique qui vient se connecter à la voiture pour faire tout ce chargement de manière plus efficace, et puis aussi des acteurs comme Witricity, qui vont utiliser des technologies de fréquences de résonance pour faire charger le véhicule par en dessous et sans contact. Donc un peu moins efficace à date avec les technologies actuelles, mais du coup beaucoup plus simple à mettre en place en termes d'infrastructure et en termes de mise en place pour les particuliers aussi. Ensuite, il y avait effectivement des sujets autour de l'hydrogène. Donc, il y avait énormément de choses avec les Coréens qui ont vraiment développé cette technologie-là. Mais il y avait aussi, du coup, des acteurs comme Quantron, un acteur allemand qui a présenté de nombreuses innovations à la fois pour les bus, pour les tracteurs, pour les camions, pour utiliser justement cette mobilité électrique à hydrogène. Ensuite, on avait aussi pas mal de choses autour de l'expérience et de l'autonomie. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait beaucoup moins d'acteurs, on va dire, sur la voiture autonome, mais on avait, on va dire, les autres acteurs qui étaient très présents. Donc, on a fait avec la délégation un petit tour en véhicule, donc plutôt de transport public. Donc, c'était une petite navette autonome d'un acteur WeRide sur place,
En
en
circulation.
circulation. Donc, toute la délégation dans cette petite navette. Et ensuite, on a fait tout un tour du hall en circulation normale. Et pour le coup, le résultat était plutôt probant. Zéro accélération bizarre, zéro frein bizarre. C'était assez impressionnant. Donc ça, c'était des acteurs chinois et on voit déjà qu'ils sont très très implantés avec beaucoup de fonds aussi derrière qu'ils ont pu lever.
Moi, je vais faire un commentaire. Donc, en fait, c'est vrai que comparé à la promesse qui avait été faite 4-5 ans précédemment, on avait une promesse de roulage full autonome et on regarderait des films, on ferait des réunions Teams à l'intérieur de sa voiture pendant qu'elle nous déplacerait. C'était plus du tout le cas. On n'a pas du tout vu ça. Ce qu'on a vu à Las Vegas, par contre, c'est beaucoup d'équipements, des nouveaux lidars, des nouveaux radars, des nouvelles caméras toujours plus perfectionnées, plus sensibles et plus précises. Et ça, au service, en fait, plus de la navette autonome. C'est-à-dire qu'en termes de niveau, on se voyait plus dans un niveau 4 pour des navettes autonomes à faible vitesse, dans des endroits qui sont plutôt maîtrisés en termes de cartographie, en termes de traversée de piétons et autres. Et beaucoup pour le off-road. Je ne sais pas si tu reviendras dessus, mais on a vu quand même beaucoup de tracteurs, de tractopelles autonomes qui étaient sur le système.
Notamment chez Hyundai. Et puis effectivement, pour compléter aussi ce commentaire, des camions autonomes, peut-être aussi par cette simplicité, plutôt de voir, en fait, des camions, ça pourrait faire peur, mais en fait, entrepôts dans des zones qui sont peu urbanisées, du coup, une manière, on va dire, de plus facilement de mettre en place tout ça. Ensuite, effectivement, on a vu des choses donc de ChatGPT en voiture, bon, encore au stade un peu de l'embryon, mais de voir vraiment comment ces innovations en termes d'interaction dans la voiture émergeaient, même si par rapport aux années précédentes, c'était beaucoup plus faible. Et puis, il y avait aussi Hyundai qui a montré des choses, notamment avec le e-Corner, donc c'est cette voiture avec une technologie qui fait tourner les roues à 90 degrés et puis derrière permet de faire soit un parking en parallèle très facilement ou même de ce qu'on appelle le crab walking, donc rouler, on va dire, dans un angle un peu spécial. Donc tout ça montre, en fait, à partir du moment où on a un véhicule électrique, on a aussi potentiellement un peu plus de facilité pour embarquer d'autres technologies plus facilement au niveau du véhicule. Et du coup, Hyundai travaille travaillé là-dessus. Hyundai a aussi montré beaucoup de choses autour de ces drones de transport. Donc, il y avait notamment la partie CityPod. Donc, je vais vous laisser tourner la vidéo, mais je vais vous expliquer en même temps. Et donc, c'est ce que vous voyez au milieu, là, au niveau de l'écran. Et donc, c'est comme un petit camion autonome où, en fait, chaque compartiment derrière et autonomisé aussi, et derrière va pouvoir soit livrer, récupérer, recharger en même temps d'avancer. Donc il y a ce vaisseau-mètre qui avance dans la ville, et chaque partie que vous voyez là est du coup autonome et va pouvoir faire les livraisons en même temps dans la ville. Ça, c'était aussi des choses qui étaient intéressantes chez Hyundai. On parlait de ces eVTOL, donc les véhicules j'ai le mot qui m'échappe, mais à décollage vertical, merci. Avec du coup, Supernal, qui est un des gros acteurs implanté aux États-Unis, mais avec plein de partenariats. Et puis XPeng, là plutôt l'acteur chinois. Et donc, pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemblait en termes de taille, donc c'est comme un super hélicoptère électrique capable de transporter entre 7 et 8 personnes avec un peu de stockage derrière, prévu pour justement le transport entre différentes villes sur place. Donc, quand vous voyez la taille, donc là on avait la délégation devant. Effectivement, c'était assez impressionnant. Le stand était super impressionnant. Et la deuxième partie qui était intéressante, en plus de ce drone volant, c'était aussi toute la partie, on va dire, gestion de ce flux aérien complémentaire qui arriverait dans nos villes. Et donc, il y avait déjà mis en place tous les outils pour être capable d'analyser ce flux aérien et de faire en sorte que il y ait un peu ce guidage qui soit fait de manière plus automatique et plus efficacement au sein de la ville. Et puis XPeng, donc ça paraît très futuriste, c'est en fait cette voiture qui justement a, on va dire, intégrer des petites ailes et qui du coup va pouvoir vous permettre de décoller. Donc ça pourrait être utile à Paris pour pouvoir décoller en cas de en cas d'embouteillage. Mais bon, ça paraît très très futuristique, mais effectivement, donc la voiture entre guillemets fonctionnelle. Maintenant, évidemment, c'est toujours une histoire de réglementation pour ces sujets-là. Donc on a encore beaucoup de temps avant de voir des appareils comme ça, mais c'était intéressant de voir que en termes de développement produit en tant que tel, ces acteurs-là sont vraiment prêts.
Il y a le chauffeur,
Il y a le chauffeur qui est effectivement dans le véhicule. Sur la partie ville connectée, ville intelligente, effectivement, alors on voit aussi les différences d'attente au niveau de cette smart city, comme on appelle ça, entre le modèle américain qui est vraiment autour de l'utilisation de la donnée pour contrôler toute l'action publique via des algorithmes ou automatiser pas mal de choses. Le modèle chinois qui est vraiment orienté autour de l'identification, la reconnaissance faciale, la sécurité dans la ville. Et puis le modèle européen qui est un peu entre les deux, où il y a beaucoup de données, mais il y a aussi toute la partie vraiment interopérabilité, transparence de ce qui est fait de cette donnée qui est quand même assez intéressant. Et du coup, des approches différentes dans les exposants que l'on peut voir. Et puis, dans la ville, il y a aussi tous les sujets autour de la connectivité, autour de l'énergie pour optimiser et réduire l'impact énergétique de la ville. Et puis aussi, pas mal de sujets autour de l'eau qui dans certaines villes, commencent à être vraiment très problématique. Vous avez vu ce qui se passe en Espagne en ce moment, au mois de février. On a aussi effectivement les sujets de planification urbaine qui étaient très présents avec des outils de simulation pour détecter, anticiper si jamais il y a différents aspects de la ville qui ont et doivent évoluer, tout l'impact que ça pourrait avoir, et puis les sujets d'intégration des énergies renouvelables dans ce système de ville intelligente. Donc, dans toute cette partie de simulation, il y avait notamment des acteurs, par exemple israéliens, comme Konata, où là, c'est des villes entières simulées, ou qui vont servir à la fois pour l'aide pour les voitures autonomes, pour on va dire, entraîner les algorithmes pour la conduite autonome, mais aussi pour la modélisation de villes, de chantiers, pour anticiper les différentes problématiques qu'il pourra soulever. Et puis, un acteur allemand, 3D Mapping Solutions, qui était aussi très, très intéressant avec ses cartes qu'il appelle Ultra HD, pour justement avoir à la fois cette simulation de la ville et faire remonter en fait toutes les informations de flux énergétique, de flux de personnes, de flux d'eau dans la ville pour justement améliorer la connaissance et la gestion de la ville au quotidien. Ensuite, il y a effectivement les sujets autour de la maison connectée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est effectivement beaucoup moins de gadgets qu'il y avait quelques années, mais c'est, on va dire, la nouvelle place de la télé qui a une place prépondérante, en tout cas pour ces acteurs-là, donc LG, Samsung, comme vraiment hub de la maison pour être ce centre de commande intelligente avec les caméras embarquées pour surveiller ce qui se passe à l'extérieur, pouvoir commander des choses depuis la télé, d'avoir une interactivité assez importante via la télé pour lui donner un peu une deuxième vie. On a vu qu'ils avaient essayé de nous vendre ces télés-là avec de la 3D, que ça n'avait pas trop fonctionné. Maintenant, ils jouent sur vraiment deux aspects. Cette partie vraiment centre de contrôle de la maison. Et le deuxième, c'est comment on rend cette télé la plus invisible possible. Et donc, on avait des acteurs comme Samsung, LG, qui présentaient du coup des télés qui sont 100% transparentes, comme vous voyez sur l'écran à gauche. Donc, assez impressionnantes. Il y avait déjà eu des essais il y avait quelques années sur le sujet, mais avec une technologie qui rendait ces télés extrêmement coûteuses. Là, c'était déjà un peu plus abordable, toujours cher, mais plus abordable et plus grand public. Et donc, c'était assez intéressant de voir comment ça évoluait sur ce côté-là. Après, il y a effectivement les robots domestiques. Il y a Samsung qui avait présenté. Donc, le robot qui patrouille au sein de chez vous pendant que vous êtes à distance, avec qui vous allez pouvoir échanger, il va pouvoir prendre des vidéos de chez vous, interagir avec votre chien. Bon, ça, c'est pour la publicité. Et même lui diffuser des vidéos en direct, c'est magnifique. Donc, bon, ça c'était pour vous montrer que sur la partie maison, ça joue sur ces sujets-là. Au niveau plutôt de l'expérience client, de la fidélité, donc bon, c'est un peu triste, mais c'est la réalité en ce moment pour le retail. Les grosses innovations étaient plutôt autour de comment analyser les points de vente pour détecter s'il n'y a pas du vol ou de la démarque en magasin. Donc il y avait des acteurs américains sur le sujet pour justement limité. Donc là, par exemple, sur l'image de gauche, vous voyez que quelqu'un a voulu intentionnellement cacher le code à barre pour derrière faire passer un autre article et du coup le poser. Et du coup, a détecté qu'il y avait, on va dire, une manière un peu bizarre de tenir ces éléments et du coup a alerté la vendeuse pour faire en sorte qu'elle rescanne. Donc ça aussi, donc c'est un peu triste, mais c'est malheureusement l'état actuel des choses. Mais c'était un des gros sujets et c'était le sujet au CES et encore plus particulièrement à un autre salon qui est juste derrière la CES sur les sujets du retail et qui est du coup la NRF de New York. Et puis, il y avait aussi la présence de Walmart pour la première fois sur le salon, qui a montré du coup tout ce qu'ils avaient mis en place en termes de recherche et de développement et qui sont en magasin avec l'expérience de recherche basée sur l'IA générative, donc un peu comme un assistant qui va vous souhaitez faire tel plat, va vous faire toute une liste de recommandations et une liste de courses automatisées. Grâce à ça, vous allez avoir toute la partie aussi de livraison à domicile. Donc, Walmart livre directement dans votre garage ou dans votre frigo. Donc, ça aussi, en termes d'expérience, ça paraît encore très lointain en France et autres. Mais c'est vrai que la configuration des maisons aux États-Unis permet d'avoir ce genre d'expérience un peu plus facilement et ils sont plus ouverts à ce genre de service. Et puis, des acteurs, justement, pour améliorer l'expérience client, comme Doology et Engage, qui sont des acteurs néerlandais pour le coup, pour transformer notamment toute tous les échanges qu'un service client pourrait avoir en documentation précise et du coup vous faire comme une super FAQ qui se nourrit en fait de toutes les interactions clients que vous pourriez avoir et qui va se connecter à vos différents outils. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que ça va pouvoir de structurer toute cette connaissance fine du produit, des différentes problématiques repérées par les clients pour venir nourrir des outils qui là vont eux être directement en interaction avec les clients. Donc ça, c'est le cas de Engage, où en fait, donc pour le moment, c'est plutôt utilisé avec la pré-rédaction de, donc va pouvoir, on va dire, requêter l'ensemble des informations sur les différents services. Est-ce qu'il a bien fait cette commande? Où en est la commande? Et derrière, va vous faire toute la réponse pour vous. Donc à date, il conseille quand même d'avoir un humain qui revérifie derrière, mais en tout cas, toute cette partie, manière optimiser et faciliter pour réduire. On voit que même sur cette partie-là, ça évolue beaucoup. Et puis, il y avait des choses autour de la réalité augmentée, donc soit pour chez vous, pour pouvoir en fait scanner chez vous, pouvoir en fait en IA générative générer différents styles, on va dire, d'aménagement chez vous, et du coup, va pouvoir vous permettre, voilà, je veux plutôt ce style-là, plutôt contemporain, ultra moderne, et du coup, va vous mettre tout le mobilier qui va bien avec on va dire directement les liens pour les acheter, pour vous faciliter la vie. Donc ça, c'était ce qui était marquant au CES, mais il y avait aussi effectivement des choses qu'on avait déjà vues, mais plutôt sur la partie habillement, où là, vous allez pouvoir en réalité augmentée prendre en photo et du coup, vous mettre tous les vêtements que vous souhaitez. Et ça, c'était assez bluffant de réalisme. Si on continue sur cette partie un peu d'IA au service du client, il y avait aussi par exemple bouffe.ai. Donc là, l'intérêt de cette solution, c'est que par rapport à tous les autres outils d'IA générative, il va avoir tendance à inventer sa version, par exemple, de votre produit et autres. Là, l'idée, c'est que vous avez une photo de votre produit et il va pas modifier ne serait-ce qu'un seul pixel de votre produit. Donc, il va respecter exactement l'emballage, exactement les différentes écritures que vous pourriez avoir, mais par contre, il va le mettre dans le décor que vous souhaitez. Donc, vous pouvez imaginer le gain de temps et le gain en termes d'argent pour limiter les shootings photos pour faire ce genre de publicité. Donc là, à droite, je demande ce produit-là sur une table en marbre qui pourrait ressembler à une, on va dire, à une salle de bain ou à une cuisine, et je vais avoir du coup ce résultat-là directement. On a aussi des acteurs qui vont du coup prendre encore plus simplement, mais plutôt pour la vidéo. Donc, vous prenez le lien de votre page produit, vous le mettez, et ça vous génère toute une collection d'images vidéo et que vous allez pouvoir réutiliser sur les réseaux sociaux et autres. Donc ça, toute cette partie vraiment de génération en vidéo commence à prendre le dessus. Et puis, il y avait un acteur aussi intéressant, donc là français, Imki, qui en fait a lancé cette première collection capsule alimentée par l'IA générative. Donc concrètement, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont d'abord expliqué exactement qu'est-ce qu'une veste en cuir à l'intelligence artificielle. Ensuite, l'ont nourri avec des années et des années d'archives de la marque de Couples. Et ensuite, a du coup généré une cinquantaine de modèles de vestes en cuir et autres qui ont ensuite été regardés par le directeur artistique et ils en ont décliné une dizaine de pièces qui seront en magasin prochainement. Donc, des vestes perfecto. Et donc, on voit en fait cette arrivée de l'IA générative, même dans l'industrie, on va dire, plus créative. Et donc, ça va venir sur quasiment tous les métiers. Ensuite, oui.
Ensuite, oui.
Parfait, il y avait un petit écho dans la salle. Et donc, effectivement, sur cette partie expérience client, il y a toute la partie logistique aussi. Donc, je parlais tout à l'heure de Walmart sur la livraison chez vous dans votre frigo ou dans votre garage. Il y a aussi toutes leurs initiatives sur la partie de drone. Donc, effectivement, ils ont fait déjà quasiment 200 000 vols sur place aux États-Unis. Et puis, ont fait un partenariat avec Gatik pour faire des livraisons. Donc, c'est des plus petits camions que des 16 tonnes, mais pour faire justement la livraison de manière complètement autonome grâce à ces camions. Ensuite, ça on y croit un peu moins, surtout dans nos villes européennes, mais effectivement, il y avait pas mal d'acteurs, notamment autonomie sur la partie robot de livraison autonome. Donc ça peut être très utile, notamment dans des universités ou même dans les aéroports, mais un peu moins dans un contexte de ville urbaine. Comme on l'entend en Europe, trop compliqué avec les escaliers, les différentes, enfin, les piétons. Même si les piétons, ils arrivent plus ou moins bien à les éviter, mais c'est vrai que monter au troisième étage, c'est pas le.
Non, le vrai c'est problème, c'est l'incivilité des gens.
En fait. Et puis,
c'est les piétons qui essayent d'arrêter les drones.
Et de récupérer ce qu'il y a dedans, effectivement. Ensuite, il y avait effectivement toute cette partie santé. Donc, sur cette partie santé, ce qu'on voit, c'est comment est-ce qu'on rend de plus en plus autonomes les patients, dû au fait qu'il y a un manque de professionnels, et du coup, comment je peux faire tous ces assistants virtuels pour les accompagner, pour faire en sorte qu'ils prennent bien leurs différents médicaments. Et donc, pour les professionnels, beaucoup d'outils d'IA pour à la fois faire des pré-diagnostics ou des pré-recommandations qui vont ensuite être validées par ces acteurs-là. Et puis, effectivement, derrière, de l'autre pendant des outils qui vont permettre aux particuliers de comprendre exactement ce qui est dans l'analyse qui a été faite, par exemple, de leur prise de sang ou autre, et qui vont expliquer, en fait, pour les particuliers exactement les différents paramètres de leurs résultats. Ensuite, sur la partie, donc il y a Barracoda qui est un acteur français qui a fait évoluer son miroir connecté dans la maison pour avoir toute cette dimension aussi autour de la santé mentale. Donc on va pouvoir détecter au fur et à mesure avec d'autres outils qu'ils ont dans leur galaxie de produits pour pouvoir en fait vraiment être le hub de santé de vous avez tous les matins. Et puis des acteurs comme FaceArt, donc ça c'est un acteur taïwanais et qui en fait avec un selfie vidéo va vous permettre de récupérer des paramètres vitaux comme le rythme cardiaque, votre pression sanguine, votre rythme de régulation, votre niveau de stress, et donc tout ça en vidéo. Et donc on peut aussi voir tous les cas d'usage qu'on pourrait avoir. Donc il y a quand même des sujets autour de la donnée, mais c'est intéressant de voir tous ces nouveaux acteurs qui se mettent sur ce sujet-là, et donc une solution sans contact, et donc on pourra imaginer tous ces applicatifs dans les outils de télémédecine qui sont en train de bien prendre. Ensuite, il y avait effectivement des sujets autour des seniors, beaucoup de choses, notamment des acteurs français comme Zoé Kerr, mais beaucoup de choses aussi du côté américain pour détecter si jamais il y a une chute. Donc Zoé Kerr, il s'appuie en gros sur les interférences que vous allez créer chez vous en tombant par rapport au Wi-Fi, et donc ça va être capté par cette prise. Et puis derrière, on va avoir les sujets autour du cérébral. Donc ça aussi, il y avait c'est casque neuronaux. Donc, si on voit un peu ce que fait Elon Musk avec ses implants, donc c'est peut-être la version juste avant, mais justement pour détecter les signaux électriques au niveau de votre cerveau, pour détecter si jamais il y a trop de stress, vous aider à vous endormir aussi. Donc ça, c'était la première partie, donc vraiment sur cette partie aide au sommeil. Et là, pour vous réveiller, je vais vous montrer après une autre vidéo, mais aussi tous ces capteurs avec beaucoup de montres et autres, des patchs qui étaient présents. Et puis, ça c'est plus pour la petite blague rapide, mais effectivement, le sujet du sommeil est un peu le mal de cette dernière décennie avec justement le... Là, c'est pour voir s'il y en a qui dorment vraiment. Mais en fait, donc va du coup détecter si jamais il y a des personnes qui vont ronfler, du coup vous faire bouger en fait de manière électronique, vous avez compris, donc il va faire bouger votre coussin pour vous dégager les voies aspiratoires et du coup vous aider à moins ronfler. Donc, voilà, beaucoup de choses autour de dans la santé, il y a beaucoup de choses autour du sommeil. Ensuite, au niveau de la beauté, pas mal d'annonces, notamment avec L'Oréal, L'Oréal Beauty Genius, donc qui est l'assistant virtuel de L'Oréal pour vous conseiller les bons produits, la bonne application et autres. Et puis, effectivement, pas mal de produits physiques, là, pour le coup, comme Color Sonic, qui est un applicateur pour les cheveux, et puis ce sèche-cheveux, on va dire, qui était du coup avec une nouvelle technologie infrarouge, et puis effectivement le maquillage en réalité virtuelle pour vos rendez-vous sur Teams par exemple. Donc ça c'était c'était aussi assez intéressant, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment de voir le virage que prend L'Oréal pour devenir une société vraiment technologique. Donc leur entité Beauty Tech prend vraiment de l'ampleur. Ils avaient beaucoup de choses après.
C'est eux d'ailleurs qui avaient fait la keynote d'ouverture.
Hein, ouais, tout à fait.
Notoire, parce que c'était un acteur français.
Ouais, un acteur français international, mais qui du coup a fait vraiment l'ouverture du salon avec toutes ses annonces, avec un show digne des plus grosses productions américaines. C'était assez impressionnant. Effectivement, donc sur cette partie avenir du travail, donc ça, on voit plusieurs choses, donc comment éduquer à l'intelligence artificielle, comment est-ce que l'IA peut créer et en tout cas voir comment il n'impacte pas trop le monde de l'emploi. Et puis effectivement, on a vu des choses pour toute la partie, ce qu'on appelle les ordinateurs spatiaux. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les dernières annonces de Apple ces derniers jours avec du coup le Vision Pro, et donc il y avait d'autres acteurs parce que Apple n'est jamais présent au CES depuis le début. Ils préfèrent créer leurs événements où ils peuvent contrôler du coup l'ensemble des communications. Mais du coup, il y avait des acteurs sur le sujet. Donc, on voit que c'est vraiment une tendance de fond qui arrive. Qui est du coup ce petit ordinateur que vous voyez en haut à droite et qui est du coup connecté aux lunettes à tout à droite de votre écran et qui vont du coup vous donner une vue en réalité augmentée de votre système de travail. Donc on voit ici un PowerPoint, un Word et pouvoir travailler comme ça donc, dans ce qu'on appelle un environnement spatial. Donc ça pouvait paraître lointain jusqu'à quelques années, effectivement, avec les avancées en termes de casque, en termes de légèreté, en termes de rendu de définition, devient de plus en plus une réalité. Et en termes de transport, par exemple, ça peut être aussi intéressant. Donc là, il y a toutes les vidéos qui sortent sur le Vision Pro en ce moment, dans l'avion, dans les transports, mais ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. Et puis, des acteurs comme Skyped, qui est en fait un masque qui permet de en fait vraiment limiter au maximum en fait le son que vous allez émettre en parlant, donc soit pour des échanges confidentiels avec des appels, vous allez pouvoir mettre ce casque et en fait ça va vraiment couper, réduire au maximum le son, donc personne peut suivre vos échanges sans côté et dans les transports, effectivement, donc ça vous crée vraiment une bulle sonore d'interaction avec, du coup, en appel. Donc, c'est assez très intéressant. Et puis, effectivement, l'IA générative va pouvoir créer des milliers de simulations différentes, notamment pour la partie formation. Et donc, ça, c'était l'innovation de Dialogue Trainer, qui est un acteur des Pays-Bas. Sur cette partie industrie, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Luc, c'est tous ces tracteurs, tractopelles électriques. Ça, c'était la grosse nouveauté, on va dire, de cette année. Avant, tout ça demandait tellement de puissance, tout à fait, Skyted de Toulouse. et donc, Hyundai qui avait montré tout ça, donc à la fois comment les contrôler à distance et du coup aussi potentiellement les rendre autonomes, les rendre électriques pour limiter l'impact énergétique et l'empreinte carbone. Et puis effectivement, derrière, toute la partie simulation des choses. Ensuite, on a vu pas mal de choses autour de l'impression 3D. Alors, beaucoup moins qu'il y a 4-5 ans, mais à noter quand même les évolutions de Formlabs, qui est un des acteurs un peu incontournables sur le sujet, et qui a réussi à imprimer en résine dentaire validé par la FDA. Et du coup, voilà, on peut voir les nouveaux cas d'usage qu'on n'avait pas encore vus jusqu'à présent pour l'impression dans ce cadre-là, et puis aussi pour imprimer des médicaments personnalisés. Donc ça, on en parle depuis quelques années maintenant, mais de manière plus industrielle. Donc là, ils arrivent à faire 100 comprimés par heure. Donc on voit que c'est une technologie qui revient un peu de l'avant. Et puis, effectivement, des choses autour de, ben, dans l'industrie, pour la maintenance prédictive ou l'autonomisation de la surveillance, ben, soit de chantier, soit d'usine, avec des robots connectés, la capacité d'analyser ce qui se passe dans l'usine, dans le noir, dans des conditions qui sont très compliquées. Et puis, ces jumeaux numériques, notamment avec ce qu'a présenté Sony. Et puis Hyundai pour ben justement faire des jumeaux numériques, soit d'un produit fini. Donc là, par exemple, la voiture, pour voir exactement ce qui s'y passe. Et ensuite, l'avant-dernière partie, donc la partie vraiment de développement durable avec deux approches très différentes. Donc sur la partie droite de vos écrans, biomitech. Là, en fait, donc on pourrait se dire qu'est-ce que sont ces petites choses, mais en fait, si vous regardez donc celle de en grise, en fait, c'est comme si ça représentait 200 arbres différents, 200 êtres. Et en fait, c'est comme un arbre mécanique où à l'intérieur, vous avez du coup des algues qui ont été élevées spécifiquement pour qu'elles captent un maximum de CO2. Et du coup, on pourrait imaginer ce genre de solution, par exemple, dans un aéroport, dans une gare et autres, donc plutôt des vases clos, mais assez conséquents, avec beaucoup de trafic, beaucoup de pollution dans l'air, pour justement capter ben, tous les polluants qui sont dans l'air, réduire ces CO2 dans
Je
les
vais
canetons.
rajouter simplement ouais, que la mise au point de la génétique de l'algue permet pas de prendre simplement comme le CO2 comme polluant,
Tout à
mais
fait.
peut se mettre pour prendre par exemple l'NOx ou certaines particules et autres. Ce qui fait qu'en ville, dans des zones locales où il y a des pollutions locales, ça permet un traitement local beaucoup plus rapide en fait que qu'est-ce qui existe actuellement.
Exactement, exactement. Et donc voilà, pour la taille de, on va dire, 2 mètres au sol, 4 mètres en hauteur, vous avez l'équivalent de 200 êtres. De taille adulte en termes de captation de polluants. Et puis derrière, notre acteur français, REVCO, qui eux vont plutôt se mettre plutôt au niveau des usines et va faire un peu comme de la cryogénisation, on va dire, des fumées et de ce qui va être dégagé par l'usine pour récupérer et stocker ce CO2. Derrière être réutilisé ben, autrement ou alors plutôt le mettre donc ouais, REVCO assez intéressant. Et puis des applicatifs un peu similaires mais pour les particuliers ou pour les entreprises avec NeoPlants où là on a modifié l'ADN d'une plante pour qu'elle capte plus de polluants atmosphériques dans des locaux, dans chez soi. Et puis Moslab, donc ça c'était un acteur coréen qui est en gros une mousse améliorée qui vient en fait capter un maximum et purifier l'air de chez vous. Les gros sujets aussi niveau développement durable, c'était la partie photovoltaïque avec des acteurs comme Heliope pour faire des photovoltaïques plus légers, moins coûteux pour vraiment faire des surfaces assez gigantesques sur des bâtiments et extrêmement fins. Derrière, vous aviez des acteurs comme Humite ben, vraiment pour équiper des collectivités hautes. Et puis le gros sujet, c'est ben, derrière. Ben effectivement, comment on fait pour recycler tous ces panneaux photovoltaïques? Vous savez qu'ils ont une durée de vie qui est assez limitée. Et justement, une des innovations, c'est comment on fait durer ces panneaux photovoltaïques plus en plus dans le temps. Mais du coup, la problématique, c'est comment je les recycle. Et donc, il y a des acteurs, notamment un acteur taïwanais, TSGC, qui se spécialise là-dessus pour ben, faire un maximum de recyclage et potentiellement faire augmenter, en récupérant les différentes pièces, la durée de vie et l'amélioration continue de ces pièces-là. Et puis, bon, un acteur, on ne savait pas trop, mais intéressant à vous le souligner quand même. Donc, effectivement, donc LV Energy, donc l'idée, c'est de capter le son ambiant. Donc, imaginez une gare, un aéroport. Derrière, va capter, en fait, vraiment ce son-là et va pouvoir générer, grâce à ces ondes sonores, de l'énergie. Derrière des acteurs, ben justement, pour stocker tout ça à la maison, comme EFCOflow, et qui avait aussi un générateur grâce à des panneaux photovoltaïques connectés, et puis avec ce côté intelligent pour capter pendant les heures creuses, on va dire, vraiment récupérer un maximum d'énergie, et puis quand c'est justement des heures pleines, utiliser l'énergie qui était stockée pour le diffuser intelligemment dans votre maison, dans votre bâtiment. Sur cette partie, il y avait aussi des choses intéressantes dans la keynote de L'Oréal d'ouverture sur comment économiser de l'eau pour tous les professionnels de la beauté. Donc, ils ont montré une innovation là-dessus et ils ont montré aussi Apta, qu'ils avaient déjà montré à Viva Technologies, mais qui permet à des personnes à mobilité réduite ou avec des tremblements et autres de pouvoir quand même appliquer du rouge à lèvres notamment, donc avec un stabilisateur, tout ça. Et donc, ça entre vraiment dans ce sujet d'inclusion où on a vu soit des choses autour de comment aider les personnes malentendantes à voir. Donc là, on avait quelques lunettes, notamment avec Xander, où on voit en fait le texte qui est écrit et qui retranscrit de ce qui est dit par la personne en face de vous. Donc ça, c'était un premier sujet. On l'a vu aussi avec le Vision Pro là qui vient de sortir. On avait des choses, plutôt pour LED. Donc là, c'est Essilor Luxottica, le gros industriel avec du coup un prototype de lunettes qui intègre du coup une technologie auditive pour vous permettre d'entendre vraiment ce qui se passe et donc par conduction osseuse va vous faire entendre ce qui se passe autour de vous. Et puis pour vous guider avec Dot Lumen, donc là c'est une start-up roumaine et qui du coup va faire un peu comme votre chien de visite et du coup qui va du coup vous alerter si jamais il y a quelque chose devant vous, vous guider si vous devez aller plus à gauche, plus à droite. Et puis aussi quelque chose qu'on n'avait jamais vu pour le coup, Augmental, qui est un acteur américain et qui en fait a développé un peu comme un palais que vous allez mettre au niveau de votre bouche et pour toutes les personnes qui sont vraiment avec zéro mobilité qui doivent quand même interagir avec un ordinateur ou une tablette ou autre, va pouvoir en fait utiliser, parce que souvent ces personnes-là ont quand même la mobilité de la langue et donc va pouvoir utiliser la langue pour contrôler un ordinateur, répondre à des appels ou en tout cas interagir avec la langue qui est du coup beaucoup plus précis que juste un petit stick et qui pouvait difficilement manipuler. Donc c'est quand même assez intéressant de voir toutes ces innovations pour inclure un maximum de personnes autour des technologies. Et puis effectivement, l'IA était partout, partout, partout. On en a parlé déjà dans les différentes parties, donc dans l'industrie, dans la santé, dans la mobilité, dans la retail, justement pour générer des nouvelles capsules, dans la maison avec ces nouveaux robots compagnons, et puis au travail avec les différentes innovations qui ont été présentées. Et puis justement, il y a eu un des acteurs qui a fait beaucoup de bruit. Alors, ils n'étaient pas vraiment exposants, mais ils ont fait des conférences de presse au sein du CES. C'était Rabbit Erwan. Et donc, eux, ils ont un peu comme objectif de réinventer le téléphone. Donc, plus besoin d'écran. Vous avez votre compagnon que vous allez pouvoir, avec qui vous allez pouvoir interagir avec la voix. Donc, je vais vous montrer en vidéo en 30 secondes et puis je vous reprends tout de suite.
This is the Rabbit R1. The R1 is a fully standalone device, primarily driven by natural language. R1 is our companion that hosts the large action model. What's the nature of the reality?
The nature of reality is a topic that has captivated the minds of philosophers and thinkers throughout history.
I can use it for a wide range of tasks. Ask anything, direct actions, complex actions.
For your trip, I found various flight options, a range of hotels to choose from, and car rentals available.
So it's all been planned out. I just confirm, 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 and that's it. AI enhanced video.
Donc juste pour donc, compléter un peu cette vidéo, on va dire marketing. Donc ce qui est intéressant, c'est deux aspects là-dessus. Le premier, c'est bah, voilà, un peu le retour de l'interaction avec la voix où on était tous un peu déçus des Siri, Google Voice là avec l'intelligence artificielle générative, ça ouvre un nouveau une nouvelle chance, on va dire, pour cette technologie-là. Et le deuxième aspect intéressant de ce R1, c'est qu'en fait, toute l'intelligence, elle est aussi embarquée dans le petit appareil que vous avez vu. Donc, a besoin d'Internet si jamais vous avez besoin de, je ne sais pas, commander quelque chose en ligne. Mais si jamais c'est plutôt de la partie informative, de la connaissance générale, va pouvoir vous aider sans connexion Internet. Et donc, tout ça... permet de dire que voilà, on va avoir potentiellement, donc est-ce que ça sera sur ce petit appareil, je ne sais pas, mais en tout cas, on pense à une recrudescence des outils par la voix, sur nos téléphones, sur nos montres et autres, qui vont pouvoir nous donner des informations en temps réel et de manière ultra efficace. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on avait aussi des sujets autour de la cybersécurité et de l'anonymisation des données. Snowpack, acteur français très avancé sur le sujet, je vais simplifier, même si c'est un peu méchant, de super VPN, où en fait, va récupérer vos données en 30, va les morceler en plein de petits morceaux de données. Eux, ils ont appelé ça le flocon, c'est pour ça le snow. Et derrière, va pouvoir en fait faire rerouter toutes ces informations-là sur différents canaux ou en tout cas tuyauterie Internet pour simplifier. Et derrière, en fait, même s'il y a une attaque, même s'il y a des attaques avec ce qu'on appelle man in the middle, où quelqu'un va essayer d'intercepter ce transit de données, mais en fait va récupérer qu'une seule partie infime des données et ne va pas pouvoir reconstituer quoi que ce soit. Donc Snowpack pour la partie connexion VPN, super intéressant et d'un point de vue de cybersécurité. Et puis un autre acteur qu'on a beaucoup aimé sur la partie vidéo, computer vision, donc l'analyse de vidéo, où en fait un des gros sujets en Europe, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces flux vidéo qui sont pleines de données personnelles, les plaques de voiture, les visages des personnes qui sont filmées, et donc on va appliquer comme une surcouche à la vidéo qui va permettre d'anonymiser tous les visages, d'anonymiser toutes les plaques d'immatriculation pour limiter toutes les informations personnelles et du coup permettre à des acteurs d'utiliser cette vidéo pour en termes de sécurité dans les aéroports, dans les gares et autres. Donc intéressant à creuser. Donc c'est un acteur allemand. Et puis pour finir, parce qu'il est temps, pour vous laisser quelques petites questions. Je vous ai fait une petite collection d'acteurs un peu drôles pour finir en beauté. Donc il y avait notamment Flappy. Donc là, ça va être une chatière qui va permettre en fait au chat de pouvoir rentrer dans la maison uniquement si elle revient la gueule vide. C'est-à-dire que si elle revient avec un mulot, ça va venir la détecter et du coup la porte va rester fermée et du coup le chat ne rentre pas. Ensuite, on va avoir, et c'est une super innovation encore, mais bon, ça aussi, il faut faire le tri au CES, on va pouvoir interagir avec ses toilettes par la voix. Donc, c'est l'innovation de Color. On va pouvoir, du coup, lui demander du son particulier et autres. Bon, c'est très japonisant, on va dire, comme expérience, mais en tout cas... Ça existe. Ensuite, ce qui faisait un peu peur, c'était la poussette intelligente autonome. Donc, en fait, elle va vous suivre avec l'enfant derrière vous. Donc, il ne faut pas qu'elle se perde. Il faut avoir suffisamment confiance en la technologie pour laisser votre enfant derrière vous. Et puis, alors là, Moluscan, donc, qui était très d'actualité justement pour la surveillance de la qualité de l'eau, pour les huîtres, pour les moules. Mais on se demandait un peu ce qu'il faisait là au CES. C'est ça. Et puis derrière, c'est assez intéressant, mais le petit capuchon pour votre doigt pour interagir avec toutes les bornes, on va dire, digitales et tactiles en public. Et donc, vous avez juste à mettre votre doigt, vous avez un petit capuchon et derrière, ça vous permet d'interagir. Donc, tout ça, donc il y a plein de petites innovations comme ça aussi au CES. Donc, il faut faire le tri dans tout ça. Et du coup, oui, je vous remercie de votre de votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Merci infiniment, Romain. C'est un vrai tour de force d'avoir fait ce récap de tout ce qu'il pouvait y avoir au CES. Je vous rassure, on n'a pas tout vu dans notre temps de visite parce que c'est extrêmement dense. C'est extrêmement prometteur aussi hein, par rapport à la transformation de notre quotidien, de nos entreprises, de la façon dont on vit, de la façon dont la société est organisée. Je ne sais pas si, Jean-Luc, tu as quelque chose à rajouter. Mais déjà, merci infiniment.
Non, le panorama était complet. Ce qui est important, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un salon où, moi, j'ai été étonné quand même, qui est très technologie push. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur les dernières propositions, à un moment donné, il faut se poser la question du besoin client, de user experience. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses où les inventeurs doivent se reposer la question de quel marché ils vont atteindre et qu'est-ce qu'ils vont apporter réellement dans notre quotidien. Mais sans ça, il y a beaucoup de
bonnes idées. Il y a un peu cette phrase qui me fait penser exactement à ça, où sur ce salon, la technologie semble être la réponse à toutes les problématiques, mais là, on se pose, mais quelle était la vraie question pour l'utilisateur et autres. Et il y a un peu de cet effet-là, où il y a, à mon sens, des fois où on invente une problématique ou un problème qui n'a pas lieu d'être, ou en tout cas ne nécessite pas une technologie connectée, parce qu'il y a aussi un sujet de batterie, de connectivité, d'électricité, de tous ces appareils-là qui est importante.
Puis le deuxième point, c'est en fait, il n'y a pas eu un grand effet waouh comme certaines fois il y a eu. Moi, je me rappelle de il y a 4-5 ans, quand on arrivait les premiers 4K, 8K de Samsung, où il y avait un mur de LED qui était impressionnant. Là, il y a des tentatives de toujours revenir avec des écrans transparents, mais dont on ne sait pas justement comment on va les utiliser, où on va réellement les mettre. Et donc, c'était plutôt de la confirmation de la techno, en fait, ce CES-là, qui dit oui, il y a des choses qui vont se faire, comme on l'a dit, surtout pour le développement durable, surtout pour la santé, grâce à l'intelligence artificielle, mais on a besoin de digérer toute cette technologie.
Effectivement, on était plutôt dans une édition de consolidation. Et puis aussi, effectivement, le gros sujet, c'était intelligence artificielle. Donc peut-être moins de choses très visibles, très, on va dire, palpables, mais avec des cas d'usage qui sont vraiment infinis et qui vont impacter tous les secteurs et toutes les entreprises, petites, grandes, moyennes. Ça, c'était assez impressionnant. Bon, on se dit, ça libère des fonctionnalités ou ça optimise certains services dans les entreprises.
Bon, très bien. En tout cas, merci Jean-Luc. Merci Romain.
Merci à vous.
Et puis merci à tous.
C'était un podcast de l'Académie saison 5. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants et collaborateurs qui ont contribué à sa réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt.